Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Clarisse Rey, qui est la directrice générale de Défi la mode, la fédération des fédérations. Clarisse va nous partager son expérience et sa place et le rôle aujourd'hui qu'occupe le défi au sein de l'écosystème de la mode française et comment elle protège tous les jours la mode et ses plus belles maisons. Merci infiniment Clarisse d'être avec nous aujourd'hui et à tous, un bon voyage et un bon podcast.
Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous accueillons Clarisse Rey, qui est la directrice générale du Défi. Le Défi, en fait, c'est une plateforme qui permet de financer beaucoup d'actions dans la mode et le luxe. Clarisse va nous expliquer tout ça. Clarisse Rey, bonjour.
Bonjour Olivier. Alors tout d'abord, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. D'abord, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et puis merci de cette invitation.
Moi, j'aime beaucoup avoir des retours avec des gens qui sont les mains dans le cambouis, on va dire. Et vous, avec le défi, vous œuvrez là-dessus. J'aimerais savoir, alors pour expliquer le défi un peu, c'est un peu technique le rôle du défi, mais c'est une structure qui regroupe les intérêts des acteurs de la mode et du luxe. Oui. Comment vous le définissez pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors le défi, c'est effectivement très bizarre parce qu'en même temps, notre objectif, c'est pas de se mettre nous en valeur, c'est de mettre en valeur les entreprises et la mode française. Donc c'est toujours un peu compliqué. Alors le défi, techniquement, je vais dire, est un organisme qui a été créé par la loi, qui est une mission d'intérêt général. Et surtout, alors pratiquement maintenant, c'est la principale plateforme de financement et de développement de la filière habillement.
Donc, concrètement, qui suivais un peu ce que vous disiez pendant l'année précédente, vous avez mis en place des subventions pour...
Alors oui, on donne beaucoup de subventions et effectivement, nous finançons beaucoup d'opérations dont on ne sait en général pas qu'elles sont financées par le défi. Alors essentiellement, on agit par exemple pour les jeunes créateurs. On aide beaucoup les jeunes créateurs à défiler. On aide beaucoup, c'est nous qui avons même inventé le concept de sphère, qui est ce showroom de créateurs d'avant-garde. Donc nous le finançons. Après, c'est piloté bien évidemment par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Nous aidons des marques plus commercial entre guillemets, donc c'est pour les salons, c'est pour des showrooms, c'est pour des missions à l'étranger. Nous soutenons aussi les fabricants français, les confectionneurs, au travers de salons, de formations, et puis on travaille aussi avec la BPI sur un programme relocalisation.
En fait, c'est très vaste,
très
le champ
exemple,
des possibles.
Par exemple, là, l'Andam vient d'annoncer les prix innovation, et puis on va bientôt avoir les prix. Peu de gens savent que le défi est cofondateur de l'Andam et un des principaux financiers. Ensuite, évidemment, on s'intéresse depuis un certain nombre d'années sur tout ce qui est innovation. Alors, digital, on a mis en place des subventions, bien sûr, mais l'an dernier, quand le premier confinement est arrivé sur nous, tel un tsunami, on a tout de suite lancé des ateliers digitaux, très ouverts, très pratiques, pour que les entreprises puissent, même si elles n'étaient pas expertes, se saisir du sujet et commencer à faire quelque chose. Là, on vient de lancer notre nouveau programme de transformation digitale.
Alors ça, très pratiquement, s'il y a une entreprise qui ne vous connaît pas ou qui ne sait pas comment accéder à ces aides-là, ça se passe comment? C'est pas forcément directement à travers vous, ça peut être via différents supports?
Elle peut nous écrire. Alors la seule condition, c'est qu'elle paye cette fameuse taxe qui permet de financer le défi, qui est une taxe de 0,0675% sur un petit périmètre. Voilà, il suffit que... Sinon, elles nous écrivent, elles peuvent passer, bien sûr, au travers de leur fédération, je veux dire, bien sûr, qu'ils sont très, très au courant, puisqu'on a fait le programme avec elles. On est très investis sur la mode durable. Donc, on a aussi des aides, mais bientôt va sortir un guide éco-conception que nous finançons. Les guides qui sont déjà sortis, comme le sourcing durable, c'est nous qui les avons financés. Enfin, donc là, on va lancer des pilotes dans le cadre du comité stratégique filière sur la traçabilité. Donc, on fait quand même beaucoup de choses.
Oui, et, voilà. Et tout ça, ça vient nourrir la réflexion des chefs d'entreprise.
Ça vient nourrir la réflexion, il y a la réflexion, il y a les aides. Et puis, il y a cet écosystème auquel on est très vigilant. Par exemple, de façon constante, on a un œil sur des entreprises qui sont dans la fashion tech, qui ne payent pas la taxe, qui ne la paieront jamais. Mais par exemple, pour aider les entreprises, là tout à l'heure, je recevais, une jeune start-up Foam d'ailleurs, mm-hmm. qui est dans la seconde main. On a regardé avec elle, on a vu comment on pouvait aussi les aider à ouvrir de nouveaux marchés. On se sent un rôle pour l'écosystème de dynamisation. On a un très gros rôle qui, évidemment, ne se voit pas. Il n'y a pas de raison de se voir, parce qu'on a quand même autour de la table toutes les filières, tous les secteurs de l'habillement, donc aussi bien la Fédération de la Haute Couture et de la Mode que les fédérations de prêt-à-porter, que les enseignes et que les fabricants. Et donc, il faut que tout ce monde-là converge. Et donc,
oui, c'est pas toujours simple de les mettre, de les aligner et de les faire avancer ensemble.
C'est pas toujours simple, mais ça se passe finalement bien. Mais c'est vrai que de notre part, de ma part, je passe énormément de temps pour créer des convergences. Et je pense que c'est très important.
Ils sont à peu près tous alignés en ce moment sur les deux grands enjeux, digital et éco-responsabilité, RSE.
Oui.
Là-dessus, il n'y a plus vraiment de débat.
Il n'y a aucun sujet.
Vous allez me dire tout à l'heure comment vous voyez l'évolution de ces sujets-là et comment on peut les aborder, parce que c'est la problématique
de la plupart des entreprises. Ils sont majeurs.
Mais avant ça, moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre parcours, parce que vous n'êtes pas forcément originaire de l'univers de la mode à l'origine.
Pas du tout. Moi, je suis à la base ingénieur, donc j'ai fait Central Paris, j'ai fait l'ENA, mais c'est vrai que je me sens très très centralienne en fait. J'ai eu un parcours essentiellement en entreprise, que ce soit dans les biotechnologies, chez Biomérieux, aussi dans le courtage d'assurance. Donc ma famille est originaire d'Italie, donc en fait j'ai aussi un tempérament un peu italien. Un tempérament un peu italien. Mes grands-parents paternels avaient fui le fascisme en Italie et avaient traversé les Alpes pour s'implanter en France. Et donc, c'est vrai que je viens d'une famille pour qui le travail, les valeurs, le respect, la reconnaissance vis-à-vis de la France qui les a accueillis est quelque chose de très, très important. On est aussi... ma famille n'avait strictement aucun réseau. Donc... Mmh.
Quand ils sont arrivés, ils se sont installés où ? Vous avez grandi où ?
Ils se sont installés à Lyon. Ils se sont installés à Lyon. Mes grands-parents paternels avaient un café. Et puis papa est tombé malade. Il est allé dans sa famille en Italie. Et puis il a rencontré maman et ça a été le coup de foudre. Il l'a ramené en France. Donc voilà. Et donc je viens d'une famille qui était extrêmement simple. Et dont je remercie encore mes parents, et j'ai encore la chance de les avoir, vraiment, de ces valeurs. J'étais fille unique, je suis toujours fille unique d'ailleurs. Et donc, on était tous les trois, et mes parents ont tout fait pour que je fasse de bonnes études. Et pour moi, ça a été vraiment le parcours républicain, quand on l'évoque. Et en fait, dans ma carrière, j'ai fait des choses extraordinairement différentes, en fait.
Vous avez touché à l'univers politique, sans dire la politique, mais vous avez touché à cet univers-là.
Oui.
C'est lié aussi à ce regard sur l'univers républicain.
C'est vrai qu'à Lyon, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Mérieux lors d'un de mes stages. Et c'était à l'époque de la création des conseils régionaux. Et j'ai fait partie d'un quota femmes. Mmh. Voilà, déjà avant que ça soit quelque chose de très diffusé, on m'avait mise à une place où on pensait que je ne serais jamais élue, et puis j'ai été élue. Donc je me suis occupée, dans ce cadre-là, de tout ce qui était déjà internationalisation des PME, parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc, et puis j'ai abandonné au bout de deux mandats, un peu... attriste, enfin, à la fois parce qu'on ne m'a pas proposé de repartir, mais c'est vrai que moi, je me fais une idée de la politique, du service public extraordinairement élevée. Et donc, je suis incapable de faire quelque chose qui m'est avantageux et qui soit au détriment de l'intérêt général. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc, et puis, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je me suis mariée par coup de foudre aussi. J'ai tout de suite été enceinte et que je ne pouvais pas faire les allers-retours Paris-Lyon comme ça, parce que pour moi, la famille est quelque chose de très important.
Très important. Voilà. Et qu'est-ce que vous gardez de cette époque-là est-ce que vous en gardez une formation, un souvenir particulier, quelque chose qui a marqué votre carrière derrière, de toucher à la politique de ce type-là? Ça a eu un impact?
C'est-à-dire qu'avec Alain Mérieux, quand il y avait Alain Mérieux, c'était extraordinaire, quoi, parce que lui, c'est un grand chef d'entreprise. Il a la tête de très très belles entreprises. Il a aussi une vision d'intérêt général qui va bien bien au-delà qu'avait déjà son père. Donc, je veux dire, c'était une période fantastique. Donc, tant que c'était avec l'équipe Alain Mérieux, bon, je veux dire, je me retrouvais totalement alignée. Après, moi, ce qui m'a choquée, c'est que vos pires ennemis, c'est quand même vos amis politiques. Donc, moi, j'arrive pas bien
à naviguer dans cette ambiance.
Non, et puis il n'y en avait pas tant que ça avec qui j'avais par exemple envie d'inviter un dimanche manger une pasta à la maison. Quoi.
Oui.
Donc, et puis, ce qui est aussi très dur, c'est que je trouve qu'il fallait, déployer une énergie mais considérable pour faire avancer les choses. Alors, je peux être contente, c'est que quand dans mon action, je veux dire, mes actions étaient votées à l'unanimité du Front National. Alors, il n'y avait pas d'extrême gauche à l'époque. Le plus à gauche, c'était les écologistes. Tout le monde votait mes actions parce que j'avais absolument refusé des décisions politiques, genre embaucher, moi j'appelle ça des fils d'archevêque, parce que j'avais refusé. Comme on s'occupait d'international et à l'époque, il y avait des antennes à l'étranger, je refusais que ça serve à organiser des voyages pour certains politiques. Alors évidemment, à chaque fois, ça créait des tensions, mais je leur ai dit non, parce que sinon, vous tuez l'opération. Quoi.
Oui.
Il faut rester sur une ligne de crête. Évidemment, il ne faut pas être obtus. Hein. Un membre du conseil régional avait un problème dans un pays, évidemment qu'on pouvait l'aider. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais voilà, donc
mais que ce soit l'intérêt général qui prime.
Mais enfin bon, alors à la fois j'ai vécu une période fantastique, mais bon, je suis quand même un peu attristée par, tout ce qui se passe. En plus, pour moi, je veux dire, la politique, c'est aussi œuvrer pour tout le monde. Pas de la même façon pour tout le monde, mais j'allais dire, c'est... Alors que je trouve que la politique, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi, depuis quelques années, chacun a ses boucs émissaires. Donc, on peut pas faire un pays, on peut pas faire une nation en disant qu'il y en a qui sont méchants. Quoi. Enfin, alors, je dirais pas ça sur les islamistes radicaux. Hein. Je veux dire, ceux qui coupent la tête de Samuel Paty, non. Mais je veux dire, le reste, on est une communauté. Voilà, il faut essayer de faire que les choses avancent pour tout le monde et qu'on respecte tout le monde. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de faire les mêmes choses, mais il faut quand même créer une communauté. Donc moi, je supporte vraiment très très mal ces côtés bouc émissaire.
Et de créer des oppositions.
Je trouve que c'est... D'abord, je trouve que c'est mortel et la société française souffre de très très nombreuses divisions. C'est mortel, c'est pas le rôle d'un politique de pointer du doigt un tel ou un tel, enfin, telle catégorie sociale, enfin, je veux dire, c'est...
Et vous, suite à cette expérience-là, comment vous avez converti cette passion, ce désir de travailler pour l'intérêt général dans l'entreprise?
Parce que en fait, même quand j'étais conseillère régionale, j'ai toujours travaillé. Donc, c'était pour moi naturel. J'ai toujours adoré les entreprises, surtout petites et moyennes. Et puis aujourd'hui, à la tête du défi, je renoue en tous les cas. Enfin, j'ai fait du cabinet ministériel aussi.
Oui.
Hein. avec Michel Noir, mais surtout avec Gérard Longuet, qui a été un très grand ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur, qui n'était pas du tout rattaché à Bercy. C'est là, d'ailleurs, où j'ai découvert le secteur de la mode, puisque...
Ça a été votre premier contact à ce moment-là ?
Oui, parce que je venais d'une expérience chez Biomérieux, donc santé. Donc, je me suis retrouvée au cabinet de Gérard Longuet. On m'a dit, ah bah tiens, tu vas t'occuper des biens de consommation. Alors bon, déjà pour moi, la santé dans les biens de consommation, ce n'était pas un concept totalement évident. Et on m'a dit, ah bah tiens, y a la mode. Donc, la mode, je suis une femme, donc je m'y intéressais. Maman me faisait des robes absolument extraordinaires quand j'étais jeune. D'ailleurs, à une autre époque, maman aurait pu être créatrice, je pense, tellement elle avait du talent. Et alors, j'ai découvert ce secteur. Moi, comme à chaque fois, quand je découvre quelque chose, je plonge dedans. Je vais sur le terrain, je parle à des entreprises. Et donc, j'ai découvert ce secteur. Je le trouve extraordinaire. Hein. Alors là, moi, ingénieur, j'ai une passion pour ce secteur-là. Parce que, d'abord, il est complexe et que sans doute, j'aime bien un peu les choses complexes. Mais il allie créativité, innovation. Il est en avance de phase dans les évolutions sociétales. On y rencontre des gens passionnants, investis. Je connais honnêtement aucun autre secteur où, quelle que soit, la position dans une entreprise, les gens ne soient pas... ils sont passionnés, quoi.
Comment vous expliquez que... De manière plus générale, c'est pas considéré comme un secteur hyper dynamique, c'est pas considéré comme un secteur d'avenir. Comment vous expliquez ça, vous qui fréquentez tous ces chefs d'entreprise, tous ces gens passionnés au quotidien ?
Alors ça, pour nous, alors on a essayé, on essaye, on continue d'essayer, mais avec, il faut quand même le reconnaître, un succès très très limité. Les pouvoirs publics français. Les politiques français ne considèrent pas la mode comme un secteur sérieux, si vous voulez. Donc alors nous, on avait financé une étude réalisée par l'IFM, qui sont les grands chiffres de la mode, tout de même 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. 1 million d'emplois, un PIB supérieur à celui de l'automobile ou de l'aéronautique, et on est déconsidéré, enfin vraiment déconsidéré. C'est toujours considéré comme un secteur un peu futile. Je veux dire, il n'y a pas de robots, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de vis, il n'y a pas d'écrou. Donc, quelque part, et on a beaucoup, 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 beaucoup de mal à le faire passer, quoi. Je veux dire, on voit dans le plan de relance, alors bien sûr qu'on a eu les mesures est fort heureusement générale, hein, transversale, mais il n'y a aucune mesure sectorielle.
Ça, c'est très flagrant. On a des choses sur l'aéronautique, l'automobile,
l'hydrogène, la pharmaceutique. Tout ça, encore une fois, est très bien. Hein, je trouve ça très, très bien, hein, très important pour la France. Hein. Moi, j'avoue que je suis pour l'industrie française, je suis pour le développement de l'industrie française, je suis pour que l'industrie se développe, innove, je veux dire qu'on en arrive. Je pense que ça vient aussi du fait que dans l'organisation institutionnelle, par exemple à Bercy, on a des inspecteurs des finances, on a Cordemine, tous des gens très bien, sauf que ils comprennent pas la mode.
Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas par rapport à l'aéronautique ou l'automobile ?
C'est-à-dire que l'aéronautique, ils l'ont vu, dans leur cursus scolaire, mais ils ne la connaissent pas. Alors, honnêtement, ce qui m'agace un peu, c'est que quand on a 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires, peut-être qu'on regarde un peu. C'est quand même un secteur leader dans le monde français. Ils ne la connaissent pas. Et l'organisation fait que c'est pas considéré comme quelque chose d'important. Quand je regarde, par contre, ce qui se passe, de façon un peu structurée, en Angleterre, évidemment en Italie, mais aussi, Je veux dire, aux États-Unis, ils ont parfaitement compris que les industries créatives avaient une puissance de développement, une puissance de rayonnement exceptionnelle. Donc,
Concrètement, pourquoi il faudrait que l'État investisse plus, ou en tout cas structure plus ses investissements dans le textile, dans la mode.
On ne demande pas, je vais dire, ça ne serait jamais des investissements à la hauteur des aides qui sont données à l'automobile, à l'aéronautique. Mais un petit coup de pouce, il faut par exemple batailler sur le crédit d'impôt collection qui a été terriblement restreint. Or, ce sont des toutes petites sommes, mais cette conception que finalement il faut, c'est très important d'avoir toute cette frange créative parce que elle alimente tout l'écosystème. Par exemple, alors peut-être qu'on va gagner finalement, peut-être que ça va créer un déclic, mais par exemple, on va se poser tout à l'heure la question de la mode durable. Il y a tout de même des investissements à faire qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec, les investissements de l'industrie 4.0 sur la traçabilité. Je veux dire, bon, ça coûte quand même un peu d'argent. Je veux dire, il n'y a pas de raison que, après tout, les marques ne soient pas soutenues. Enfin, pourquoi est-ce qu'elles en seraient exclues de ces dispositifs ?
Est-ce que ça leur apporterait quoi, finalement, d'avoir un soutien sur ces points-là ?
D'abord, elles pourraient aller, parce que là, pour le coup, traçabilité, il faut vraiment y aller très très vite, vraiment très très vite, parce que c'est un peu la brique de base qui permet, après, de pouvoir, d'abord être transparent vis-à-vis du consommateur, parler du client, parce que le client, lui, exige de la transparence. Alors, afficher une transparence quand vous n'êtes pas sûr que les choses sont faites vraiment, c'est quand même un peu moyen, et on voit qu'il y a des entreprises qui sont un peu border là-dessus. Mais du coup, ça permettrait d'aller très vite.
Donc en fait, ce qu'il faudrait en termes d'aide de l'État, c'est sur ces grands points qui sont de plus en plus stratégiques, oui, qu'on puisse activer des choses.
Oui, et par exemple, même pour le digital, la transfo digitale. Alors là aussi, ce n'est pas des sommes énormes, mais tout de même. Surtout que la mode, c'est l'un des secteurs, alors évidemment pas autant que l'hôtellerie, la restauration m'a été très très impactée par les confinements quand même. Enfin bon, je veux dire, fermeture, etc. Donc il a été très impacté. Ça vient après plusieurs années difficiles. On rappelle quand même les gilets jaunes, on rappelle les grèves des retraites, puis les confinements. Donc c'est pas totalement indécent de se dire que, non pas pour aider forcément, entre guillemets, les canards boiteux, s'il y en a, mais pour accélérer sur les termes du futur, les points importants stratégiques du futur.
Parce que vous voyez quoi concrètement, on l'a évoqué, hein, deux grandes thématiques, digital et RSE, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il faut à ce point-là investir dans ces deux thématiques ?
Alors, si on parle par exemple de mode durable, le premier point, moi, je suis toujours très sensible à ça. C'est qu'il y a une évolution dans les habitudes de consommation. Il y a une évolution chez les clients. On s'adapte aux clients. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, aux États-Unis, les entreprises s'adaptent et ils considèrent que celles qui ne vont pas s'adapter, elles auront des problèmes. Donc ça, c'est une nécessité par rapport à ses clients. Et ensuite, notamment en France et en Europe, il y a des exigences réglementaires qui se font jour, qui se concrétisent, qui sont tout de même extrêmement...
Oui, à l'horizon 2022, 2023, 2024, il y a des choses qui vont être imposées aux entreprises.
Lourdes, par exemple, il y a tout le débat en ce moment, sur l'affichage environnemental. C'est loin d'être neutre. Par exemple, on a fait des études, affichage environnemental. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un système de traçabilité pour une PME, ça voudrait dire à peu près l'équivalent de 10 heures pour chaque modèle.
Donc c'est un surcoût supplémentaire. C'est
10 heures, même si vous prenez une petite entreprise, 200 modèles par an, ce qui est déjà une une petite entreprise, vraiment petite. 10 par 200, ça fait 2000. 2000, c'est supérieur, c'est plus qu'un ETP.
Oui.
Donc, enfin, voilà, donc c'est des choses lourdes. Ensuite, il y a des vrais débats. Donc, si vous voulez, entre l'exigence du consommateur, l'exigence des clients, l'évolution des habitudes de consommation et les exigences réglementaires,
oui. Ça fait pas mal de raisons d'y aller.
Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons d'y aller. Maintenant, le digital, c'est alors le secteur est plutôt en retard. Il faut quand même le dire parce que la révolution. Numérique, c'est plutôt les années 2000. Donc, mais maintenant, aujourd'hui, il y a un total basculement. Et là, ce que je dis toujours aux entreprises, attention, ça ne veut pas dire simplement le site de e-commerce, quoi. Je veux dire, ou parce que on poste des jolies images sur Instagram.
Ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce qu'on doit construire?
Beaucoup. Alors, c'est pour ça que en temps 1, j'allais dire notre programme. Il y a une journée Vision 360 et il y a la proposition faite aux entreprises de remplir un cockpit, de réaliser un cockpit pour se rendre compte là où elles en sont, parce que la révolution digitale, ça touche tous les aspects de l'entreprise. Ça touche une partie de la création, Alors maintenant, parce qu'il y a des... Alors, techniquement, je veux dire, pour faire des modèles, vous avez maintenant des logiciels 3D, etc. Mais ce qui est en train d'arriver, on en avait parlé, c'est une mode digitale.
Oui.
Et là...
De créer des vêtements pour l'univers digital.
Également les modes d'expression, et on l'a très bien vu ce qui s'est passé avec les Fashion Week où il n'y avait pas de possibilité de défiler, c'est que s'ouvre un champ d'expression artistique, créatif, qui a recours au digital. Donc,
c'est une complémentarité, effectivement, c'est une entre complémentarité, le physique
et je pense que de toute façon, on va voir comment se passent les Fashion Week là, qui vont s'ouvrir. À mon sens, il est absolument certain que maintenant, tous les créateurs vont à la fois s'exprimer dans le digital et dans le physique. C'est quelque chose qui... Donc ça, c'est la création. Il y a tout ce qui est alors absolument fondamental, tout ce qui est client. Mais le client, ça veut dire bien connaître ses clients, ça veut dire savoir personnaliser une interaction avec lui. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que le digital, la force des outils digitaux, c'est que ça vous permet aussi d'avoir une entreprise qui est complètement centrée sur le client. Client-centric.
Oui, et ça c'est aussi un changement d'état d'esprit.
Comme disent les Américains, mais ils ont bien raison. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se mettre en place, ça permet aussi de réagir très vite, et c'est plus simplement une façon un peu linéaire de... Voilà,
on a son calendrier, on répond à la demande.
Voilà, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus fluide. Donc, il y a le client. On appelle ça les 5 C. Alors, il faut rendre hommage à Pascal Morand qui avait d'abord établi les 4 C. Et en discutant, on s'est dit qu'il y en avait un cinquième. Alors, bon, on en a déjà deux. Le troisième, c'est tout ce qui est communication. Mais là aussi, il faut bien voir que... Et la mode a quelque chose de très spécifique. C'est que, je veux dire, vendre et communiquer dans la mode, c'est très imbriqué, quoi. Enfin, c'est pas simplement, je fais de la pub. Il y a 4, tout ce qui est compétitivité. Donc, et ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, dans compétitivité, nous, on y met tous les outils de traçabilité, par exemple. Je veux dire, il faut tracer, mais il faut aussi exploiter des données. On va aller aussi de plus en plus vers des modèles qui vont nécessiter des approches plus collaboratives, parce que sinon les investissements seraient absolument gigantissimes. Donc, qui dit approche collaborative dit aussi qu'il faut pouvoir s'interfacer, j'allais dire, plus facilement avec d'autres acteurs,
avec
des sous-traitants, des fournisseurs, des partenaires. Donc, tout ça, il faut pouvoir suivre beaucoup plus précisément, j'allais dire, son activité. Moi, j'avoue, je répète que le cost of goods, c'est absolument monstrueux. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui, on ne peut plus piloter son entreprise simplement en se disant « Allez, hop, je prends le coût de fabrication, le coût des matières premières, j'applique un COEF entre 2,8 et 20 selon que je suis une marque, une petite marque ou une marque de luxe, et c'est bon. » Voilà. Non, c'est plus possible. Je veux dire, il faut être beaucoup plus fin.
Parce que c'est entre le côté durable et le côté digital ou numérique, ouais. C'est énormément de sujets en même temps. Sur quoi on met les priorités, finalement?
C'est-à-dire que... alors, je finis mon cinquième cycle, peut-être. Parce que j'en ai fait quatre, là. Hein. Je suis désolée.
T'es sur le collaboratif.
Donc, non, c'est... Oui, on aurait pu. Oui, d'ailleurs, c'était la proposition de Pascal. Le cinquième C, c'est en fait ce qu'on a rajouté, c'est la culture d'entreprise. C'est-à-dire que le digital permet cette agilité, cette résilience, cette capacité. Alors beaucoup de test and learn, on lance quelque chose et puis une semaine après, on en tire des conséquences et on ajuste. Ça permet aussi de partager l'information. Donc c'est aussi une autre façon de manager l'entreprise. Donc, les 5 C. Alors maintenant, où est-ce qu'on met la barre? On n'est pas obligé de faire tout en même temps, mais il faut déjà commencer par quelque chose. Donc, dans la mode durable, alors d'abord, on peut suivre la formation des filles, bien sûr. On a accès à des aides sur ces deux sujets-là. Il y a tout le travail, je vais dire, et les compétences des fédérations qui aident. Moi, ce que je dirais, c'est que côté mode durable... Le point important, c'est déjà de travailler, enfin, de faire en sorte qu'on ait un sourcing matière et évidemment fabrication qui sont de mon niveau. Je veux dire, parce que.
On est capable de savoir d'où ça vient, quel est le type de matière.
Oui, et puis les matières, recourir. Alors, moi, je suis très pour. Recourir dans l'immédiat, quand on est une PME, à des labels. Je veux dire, parce que bon, on va pas pouvoir tout réinventer, hein, réinventer la roue. Ce sont des labels qui vous permettent, vous prenez de l'Ecotex, etc. C'est des labels de bon niveau. Moi, j'avoue que je suis très, très sensible à tout ce qui est aussi humain, éthique, parce que je trouve très, très lourd, enfin, très, très dur que on. Je veux dire, des vêtements puissent être fabriqués dans des conditions extrêmement dramatiques.
Quoi, et là-dessus aussi, il y aura un retour de la part du consommateur qui est...
Oui, alors le consommateur, il n'est pas toujours logique. Hein, oui. Parce que honnêtement, quand il voit un jean à 9 euros, s'il pense que le jean a été fait dans des conditions éthiques... Moi, j'ai du mal à penser que le consommateur ne se rend pas compte... Après, il y a des nécessités économiques, ça c'est vrai. Je veux dire, surtout, elles vont se renforcer, les nécessités économiques. Mais je veux dire, quand on dit, oui, il faut absolument donner de l'information au consommateur, oui, mais enfin, si un consommateur qui achète un jean à 9 euros ne se dit pas qu'il y a un bug, je veux dire...
C'est aussi là-dessus qu'il faut le sensibiliser, d'avoir ça comme repère.
Mais en même temps, c'est vrai que vous imaginez... Alors, c'est souvent malheureusement une femme qui vit seule avec trois enfants, qui n'a pas un job extraordinaire ou pas de job, elle ne peut pas faire autrement. En même temps, il ne faut pas la culpabiliser. Enfin, c'est tout un équilibre. En plus, je pense que si on commence à faire attention à la manière dont les tissus sont fabriqués, la confection est réalisée, si c'est dans des conditions éthiques... forcément que même l'impact environnemental est meilleur. Quoi. Enfin, un peu de pair. Donc moi, je commencerai vraiment par sourcing éthique. Je commencerai par regarder traçabilité. Donc là, nous, on va lancer des pilotes traçabilité dans le cadre du comité stratégique filière. Il y a un webinar lundi pour informer sur ces pilotes. Dans le cadre du CSF, on a fait un gros travail pour mettre en évidence les meilleures, en tous les cas l'an dernier, les meilleures solutions. Hein. Donc, c'est déjà une indication.
Et ça permet effectivement aux entreprises de s'orienter et d'aller
On va travailler avec notamment l'ADEME pour que les entreprises puissent avoir des aides sur ce sujet-là, parce qu'on considère que c'est très très important. Et ensuite, la clé, c'est vraiment l'éco-conception. Donc là, on a un guide, on a beaucoup travaillé avec toutes les fédés et le cabinet ECOEF pour faire ce guide éco-conception qui va bientôt sortir.
Mais c'est pareil, c'est des choses qui doivent rentrer dans la logique des entreprises et
de mettre ça en place. Oui, et puis par exemple, l'éco-conception, c'est comme tout, il ne faut pas tout se dire « oh là là !»
Oui, je bascule sur de l'éco-conception, ça ne marche pas.
Non, je veux dire, il faut commencer, alors c'est bien adapté à notre secteur, mais à tirer un fil, là où on se sent plus à l'aise. Je veux dire, voilà. Et après, ce qui est important, c'est de se dire que c'est un chemin et qu'on progresse. Donc, alors, sur le digital, maintenant, c'est d'abord cette prise de conscience que le digital est indispensable. Moi, je pense qu'à horizon de quelques années, les entreprises qui ne se seront pas plongées dans le digital ont peu de chances de survie. Donc là, on a financé une très, très grosse étude qui a été publiée l'an dernier, qui est l'étude sur les modèles économiques, qui est une étude qui est l'étude la plus profonde, la plus, je vais dire, importante qui a été faite au monde. Hein, je veux dire, franchement, il n'y a pas d'étude équivalente au monde sur notre secteur, sur ce qui est important. Elle a été réalisée par KEA et IFM. Donc ça, c'est à disposition gratuite. Donc, on peut lire.
On peut aller lire, on peut aller voir les modèles qui fonctionnent ou qui sont existants.
Alors, on avait lancé ça lors du premier confinement aussi. On a lancé un bulletin e-défi. Au début, c'était deux fois par semaine et puis maintenant, une fois par semaine, où on essaye à chaque fois de donner des informations positives. On communique jamais sur ce qui ne va pas en général.
De nourrir aussi.
Des solutions, de nourrir. Ça aussi, nourrir. Enfin, là, bon, régulièrement, pas l'an dernier, parce que ça a été supprimé, il y avait le festival d'innovation South by Southwest, qui est le plus grand festival d'innovation au monde. J'en faisais des synthèses. Là, je suis en train de faire la synthèse
de ce qui a été
fait digitalement cette année. Là aussi, je veux dire, par exemple, il y a des choses que j'avais évoquées déjà en 2018. Quand on se dit en 2018, par exemple, la mode plus inclusive, mais également pour les produits, j'en parlais. Je veux dire, 2019, j'avais intitulé mon rapport « Un monde en quête de sens ». Donc, bon,
là... Il y a des choses qui sont fait dans l'air du temps des générations actuelles et il faut se nourrir de ça.
Après, il y a des déclics qui se passent et puis c'est aussi quand les gens, les chefs d'entreprise, les équipes peuvent effectivement, j'allais dire, investir un peu de temps déjà.
Oui, c'est ça.
C'est un peu de temps et puis un peu de... C'est une question aussi d'esprit. Voilà, c'est aussi une question d'esprit.
Que le chef d'entreprise soit aussi leader de cette transformation-là.
Oui, et aussi qu'il accepte, je pense, que dans ces sujets-là qui sont très nouveaux, alors évidemment, d'intégrer des jeunes, alors pourquoi pas en stage, long ou autre, mais d'accepter de les écouter et de se nourrir de leurs suggestions.
De leur culture.
Parce que digital, moi je suis pas née avec le digital, hein. D'ailleurs, ça, c'est clair. Mais bon, il faut se nourrir parce que, par exemple, le test and learn, c'est-à-dire plus, j'allais dire, être dans cette conception très linéaire, les collections, se dire on teste, on voit, etc. Bon, c'est quand même plus la jeune génération qui est dans ce mood. Alors, sur le digital, je pense qu'il faut déjà avoir cette prise de conscience et attaquer. Et le programme qu'on propose, il est vraiment sur deux piliers, qui est, un, tout ce qui est autour du client, la relation client, où là, il faut être très structuré sur connaître ses clients, avoir de la data. C'est avoir de la data, l'analyser et prendre des décisions en fonction. Et puis, commencer sur tout ce qui est efficacité opérationnelle à commencer à s'y intéresser. Mais évidemment,
C'est des petites pierres à poser.
Et continuer à les poser.
Ouais, ouais.
Et continuer à le faire, à avancer. Mais surtout, il ne faut pas se dire « Oh là là, c'est tellement compliqué ». Non, il faut y aller pas à pas. Enfin, faut pas. Et puis, il n'y a pas de solution unique. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui est bien pour tout le monde. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise, de l'envie du chef d'entreprise, de ce qu'est capable de faire son équipe. Il ne faut pas être complexé. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, surtout le digital, à la limite, il faut oublier tous les termes techniques, quoi. Parce oui. que alors.
Oui, ça peut être
et
un
le
peu envahissant.
Le cloud, le RFID, ouais. le NFC, le NFC. Bon, c'est bon, quoi. Je veux dire, il faut oublier. Tout ça, ce sont des outils. Et il faut d'abord penser à. Et nous, c'est comme ça qu'on pose des choses dans ce programme, Digital at Mode. Digital at Mode, c'est d'abord. Vous, qu'est-ce qui vous enquiquine ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? C'est quoi les problèmes que vous aimeriez résoudre ? C'est d'abord ça, et après on regarde ce qui permet de résoudre. En sachant que l'avantage quand même aujourd'hui dans le digital, par rapport à il y a 5-10 ans, c'est que maintenant, il y a des choses qui sont très faciles.
C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile,
et vous n'avez pas
beaucoup plus simple à appréhender.
Demander à un informaticien de faire des programmes, de coder, etc. Donc il y a quand même des outils qui permettent d'analyser les choses, et ça avait été d'ailleurs...
Donc il faut utiliser ça,
ça a été d'ailleurs l'objet, c'est là-dessus qu'on avait centré nos ateliers digitaux l'an dernier, sur des choses où à la sortie de l'atelier, dans une heure et demie, les entreprises, même non expertes, pouvaient faire quelque chose. Voilà, donc...
Passer à l'action.
Ouais, passer à l'action. Bah, moi, j'avoue qu'avant le premier... Alors, c'est tout con, hein, mais... Tout bête, pardon. J'allais dire, avant le premier confinement, j'avais jamais fait de Zoom.
Oui, mais voilà, c'est juste à appréhender
ces
nouveaux
outils. Je me souviens du 16 mars matin où tout le bureau, on a téléchargé Zoom, on a regardé comment ça... Et après, c'est un peu tout pareil. Enfin,
oui.
Après, si vous voulez analyser vos datas, bon, bah, y a des outils qui vous permettent de
c'est
le faire.
C'est juste à réussir à les appréhender.
Il faut juste... Voilà, savoir comment on y accède, bah, vous pataugez 2-3 fois, et puis la quatrième, c'est bon, quoi. Enfin...
Je voulais vous demander, aussi, là, on déconfine progressivement en France. Il y a plutôt une consommation un peu optimiste, là, depuis quelques semaines, et on peut espérer que le début d'été se passe plutôt bien au niveau des marques de mode. Vous, comment vous voyez l'évolution du secteur entre distribution, qui est un peu challengé, les acteurs historiques, les DNVB ou les nouveaux acteurs qui ont pour certains plutôt pas trop mal fonctionné pendant cette période-là. Comment vous voyez l'évolution, la construction du secteur ?
Alors, c'est d'abord et maintenant, il y a une extraordinaire hétérogénéité. Vraiment, ça devient très, très hétérogène et c'est très... C'est inexact, quelque part, de donner une tendance générale. Mmh. Parce que ça devient très hétérogène. Il y a tous les cas de figure dans tous les sens. C'est sûr que les DNVB se sont bien développés en général, hein, mais il y a aussi des marques. Je pense à Officine Générale, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sa progression. Il a terriblement progressé pendant les confinements, parce qu'il est à la fois physique, mais à la fois, il avait investi dans le digital.
Auparavant.
Auparavant.
Il avait déjà les outils.
Le digital, ça, il faut bien voir aussi que, notamment le digital, ça apporte quand même du chiffre d'affaires et ça permet, par l'analyse des données, d'être beaucoup plus sûr de la pertinence de ses choix. Je veux dire, on est moins dans le brouillard, quoi. Mmh. Enfin, y a tous les cas de figure. Ensuite, il y a des groupes qui souffrent, hein, ça c'est indubitable. Mais je crois vraiment que pour tout le monde, et on voit que ça se fait dans les deux sens, évidemment que les marques doivent aller sur le digital, mais les DNVB ont aussi besoin d'un lien physique.
D'un relais physique, d'une visibilité.
Oui, d'une visibilité physique. Alors ça peut se faire par des pop-up stores, ça peut se faire par des opérations, des magasins. Quand on voit Cézanne a commencé complètement, j'allais dire, sur le digital. Bon, maintenant, il a un magasin. Mais tout ça doit être très fluide. Parce que, alors on dit toujours omnicanal, mais là c'est un omnicanal plus plus. Hein. C'est plus plus. l'omnicanal, c'est quelque chose de très fluide parce que bah, les gens ont envie soit de voir sur Internet et d'aller acheter ou d'essayer ou l'inverse. Ou... Tout ça est très fluide, ce qui veut dire que déjà pour les entreprises, la première chose, c'est de pas distinguer de faire un PNL sur le physique, un PNL sur le digital.
C'est d'avoir un seul client, en fait.
C'est par rapport au client. Mmh. C'est par rapport au client et il doit être servi comme il veut, comme il le souhaite. Donc ça se renforce beaucoup. Donc ça veut dire que les indicateurs au sein des entreprises doivent vraiment prendre ça en compte, c'est-à-dire de pas pénaliser l'un ou l'autre. Je veux dire, ça doit être quelque chose.
Donc ça va être une des transformations ouais. qu'on va appliquer, parce que pour l'instant, on n'était pas sûr que ce soit rouvert. Mais là, il va falloir le vivre de cette manière-là.
Oui, et puis, je crois que le physique va toujours être important quand même. Toujours, toujours, toujours. Alors évidemment, ça change la nature des magasins. Il faut que les marques enseignent, investissent dans leurs vendeurs, qui doivent être les premiers ambassadeurs de leur marque. Donc, ils ne sont pas là simplement pour plier et déplier, quoi. Je veux dire, donc, ça change des choses, ce qui est en même temps génial, je veux dire.
Mais ce sera plus intéressant pour tout le monde, à l'arrivée.
Ça sera plus intéressant pour tout le monde. Ça sera aussi, je vais dire, ça permettra aussi d'investir dans les gens. Il y a moins de turnover. Et puis, quand on connaît quelqu'un qui est bien, on a envie de lui parler. Et ça peut se coupler aussi avec le digital, parce qu'on a vu, ça a commencé vraiment très fort pendant le premier confinement en Chine. Je veux dire, cette façon d'échanger avec des vendeurs sur le digital. Donc, vous pouvez très bien voir un vendeur et puis, dans un magasin, et puis après, vous en avez besoin et vous pouvez échanger avec lui sur le digital.
Donc oui, d'avoir une relation via voilà. Un échange sur smartphone.
Voilà. Et donc, il y a tout de même certaines marques de luxe qui ont mis ça en place très, 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 très vite avec le premier confinement. Hein, je veux dire. Et c'est quelque chose qui...
Qui va se pérenniser, a priori. C'est quelque chose qui...
Oui, parce que maintenant, en plus, quand l'habitude est prise, elle est prise. Et par ailleurs, je crois qu'il faut avoir en tête que les jeunes générations, elles considèrent plus qu'il y a une vraie frontière entre le digital et le physique. Oui. Ils naviguent très souplement de l'un à l'autre. Et puis, c'est plus sympa. Mais évidemment, il faut le mettre un peu en place.
Oui. Il y a une période de transition, mais vous êtes plutôt optimiste. Sur la partie créative, sur la partie de l'avenir de la mode française.
Ah oui, moi, je suis absolument optimiste, même si il est certain qu'il y aura, des groupes qui vont, ou des marques qui vont souffrir, voire disparaître. Mmh. C'est cette hétérogénéité-là, mais le dynamisme qui arrive est très, très puissant.
Avec toute la créativité dont vous parliez, le digital.
Oui. Et puis la France, c'est vrai que la France, et ça, c'est une politique constante de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, qui a toujours conservé, et le défi est là pour aider, cette importance vis-à-vis de la création et de la création d'avant-garde. Mmh. Alors évidemment, vu de loin, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Je veux dire, des toutes petites entreprises, elles ne sont pas nombreuses. Pourquoi les aider ? C'est tout petit. Mais c'est essentiel, parce que ça rythme l'ensemble. Et c'est une caractéristique française que n'ont plus les autres pays, parce que les autres pays n'aident pas cette frange hyper créative.
Donc on en a besoin de cela.
Ah oui, je suis absolument convaincue, vraiment convaincue. Et c'est quelque chose que partagent tous les administrateurs du défi. Vous voyez, donc ça, c'est un point très positif. Et nous, c'est vrai qu'on a une part importante de notre budget pour aider
la créativité.
Pour aider l'ANDAM, pour aider aussi... Je veux dire, on soutient financièrement aussi la plateforme digitale de la fédération. C'est très important. Et ça, c'est partagé. Et on aide aussi, alors, par exemple, aussi, ce que font les autres fédérations pour aider des jeunes entreprises qui ne sont pas, je veux dire, d'avant-garde, mais qui aussi sont très intéressants, comme on aide le programme, je veux dire, du prêt-à-porter féminin.
C'est Talent.
Talent, oui. Mmh. Je veux dire, c'est nous qui le finançons. Après, c'est effectivement la fédération qui le pilote, hein. Mais c'est nous qui le finançons. Et ça aussi, c'est très important.
C'est l'écosystème de demain, tout ça. C'est
oui, oui. Et puis, j'allais dire, quand il y a eu ce débat « See now, buy now », où la France n'a pas vraiment voulu aller, je veux dire, parce que les grandes maisons, elles peuvent très bien, du jour au lendemain, mettre le « See now, buy now ». Elles ont suffisamment de moyens pour, dès le lendemain d'un défilé, montrer, vendre les produits.
Les produits de la collection.
Oui, les produits de la collection. Ils n'ont pas voulu y aller en disant non, parce que d'une part, on a besoin de la créativité. Les jeunes créateurs ne pourraient pas suivre. Et puis, quand on monte quelque chose de très nouveau, il faut quand même quelques mois, voire quelques années, pour s'y habituer. Je veux dire, il y a des choses. Éventuellement, quand on les voit la première fois, ce n'est pas totalement évident que ça se diffuse, mais ça se diffuse. Et puis, ça garde une vraie tonicité, quoi. Enfin, une vraie tonicité. Et alors, les jeunes entreprises, les jeunes créateurs, pas nécessairement d'avant-garde, mais tous, ils ont quand même des racines, des références culturelles très profondes. Enfin, c'est... Et ça, moi, je crois que dans le monde qui arrive, la créativité va être clé. Ça va être je le mets là dans ce que je suis en train d'écrire pour South by Southwest, ça va être la nouvelle productivité. C'est-à-dire que dans un monde où ce qui est, ce qui peut être processé, etc., qui est redondant, qu'on le veuille ou non, les algorithmes vont prendre beaucoup le pas. Et donc, le côté humain, la créativité, alors évidemment esthétique, mais plus largement, va être absolument clé. Donc c'est un atout, oui, de la France.
Très bien. On espère continuer de développer cet atout.
Bah oui.
Merci beaucoup, Clarisse Rey.
Merci. Merci,
c'était
Olivier.
Un plaisir de vous accueillir.
Un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous.
C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.